Bonjour, Françoise Trossard et la belle équipe pour la récré littéraire. Alors voilà, c'était le 30 novembre, déjà 3 semaines, comme les dimanches filent. Et nous fêtions les 30 ans des Papous dans la tête en public, au studio 104 de la Maison de la Radio. Un anniversaire en 2 rencontres, la récré du matin, la récré de l'après-midi, devant une salle comble à chaque fois. 2 fois 870 personnes qui applaudissent et rient de nos facéties. C'est si bon. 30 ans pour des Papous, créés en octobre 84 par Bertrand Jérôme, qui avait cette envie d'une émission où l'on jouerait avec la littérature, les mots, la culture de chacun, sans jamais se prendre au sérieux. Et pour cette journée, presque tous les Papous d'aujourd'hui étaient présents sur scène. À mes côtés, Patrice Delbourg, Ricardo Mosner, Patrice Minet, déjà joueur au départ de l'aventure. Et puis Dominique Muller, Patrick Beignet, Jacques Bertrand, Jeanne Carillon, Patrice Caumont, Lucas Fournier, Jacques Vallée, Odile Conseil, Gérard Mordillat, Nelly Kaplan, Jacques Jouet, Eva Almassy, Hervé Letellier, Serge Joncourt, Violaine Schwartz et Jean-Bernard Pouy. Et puis les sardines, rencontrées à l'époque où nous faisions les décraqués en direct du Festival d'Avignon. Les sardines avaient reconstitué leur groupe pour chanter « Traîner rien que pour nous ». Et tandis que nous jouions à tous nos jeux, Ricardo Mosner, lui, peignait, juché sur un grand escabeau, dans le grand hall face à la scène, armé de ses pinceaux, de ses pots de peinture, accompagné en musique au piano et bandoneon par Sébastien Volco et Pablo Gignoli, il peignait le tableau de nos 30 ans sur une immense toile qui serait découpée en 30 parts, des parts de tableaux à emporter comme souvenir par les vainqueurs de notre tombola de la fin d'après-midi. Et en plus, j'avais chargé Jean-Bernard Pouy d'une mission, nous raconter du premier coup de pinceau à la signature de l'artiste la journée peinture de Ricardo Mosner. Et il l'a fait, Jean-Bernard. Dans les moments où il n'était pas sur le devant de la scène, il courait dans le grand hall avec stylo et papier, écrire sur le Mosner au travail. À découvrir aujourd'hui. Il est l'heure de reprendre le fil de notre journée anniversaire. Fil du matin, fil de l'après-midi, dans un joyeux mélange. Et pour ouvrir, une page de Publipapoucité sur les Papous, par Jeanne Carillon, à cappella et sur un air de Mozart.
Pa, papou, pa, papou, papou, d'un jour, papou, toujours, pa, 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 pou, pa, 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 pou, pa, 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 pou, pa, 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 pou, pa, 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 pou, pa, 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 pou. On est là pour vous taquiner, vous chatouiller, vous démanger. Vos méninges vont bien déguster, vos neurones sont prêtes à danser, à tournoyer, à tricoter. Les papous parlent au piou-piou, excitent les grands, les filous. Le dimanche à l'heure des papilles, du déjeuner on vous titille. Qu'on soit expert ou faussaire, qu'on rimaille à mots couverts, les manipes littéraires, c'est notre affaire, faire l'inventaire. On aime surtout le faire de conserve, un roman interactif, 2 romans inachevés, 3 strabismes divergents, 4 lipélipélipogrammes, 1 DLA, 3 bourrimés, des états de choses. Venez donc les petits et les grands jouer avec les mots, c'est grisant, c'est exaltant de cogiter tout en s'amusant, c'est enivrant de papouer tout en vocalisant. Papapou, papapou, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapou, des papouilles en gazouillant, du Mozart à tout bout de champ. Des papouilles pour les 30 ans.
Est-ce qu'on peut faire un petit point sur Ricardo Mosner en train de peindre? Ah, le voilà. Ah, il ne danse plus. C'est beau, non? On se demande dans quel sens il va découper les 30 parts. Vous avez une idée? Tout droit? Et je vais demander à Jean-Bernard Pouy d'aller retrouver Ricardo dans le grand hall parce que il a une consigne, une contrainte aujourd'hui, Jean-Bernard Pouy. Il doit écrire sur ce tableau en train de se faire et de se casser après en 30 morceaux. Et je lui ai demandé d'écrire en une seule phrase tout ce qui se passe. À tout à l'heure. Ils ont écrit à deux un roman interactif, c'est presque un ping-pong, Lucas Fournier et Hervé Le Tellier. Et il y a aussi un très très joli rôle pour Dominique Muller. Donc c'est vous qui deviez démarrer l'histoire, Lucas Fournier, vous aviez tout à imaginer, le lieu, vous avez choisi la Bretagne, les personnages et la situation. Alors, titre du premier chapitre, on se cale bien dans son fauteuil. Ils sont bons ces fauteuils du 104? On est bien? Voilà, c'est le moment roman interactif. Qui a dit « oh » ?«
Ah, pas.
Ah, ah, comme des sardines, bien sûr.
Très drôle. Mais vous êtes bien quand même. Bon. Alors, ben, vous vous calez sur l'épaule du voisin, à défaut du dossier. Et c'est parti pour le roman interactif.
Il y a des romans fleuves et là, c'est un roman océan. Chapitre premier. Titre du chapitre, Le vieil homme est amer. Il fait ce matin sur Plouganouc-Estroven un temps à ne pas mettre un menhir, même breton, dehors. Le goéland frissonne, le calvaire se légèle et le pétoncle s'enrhume. Pourtant, le vieil Erwan Le Gloinec est de sortie. Sous l'armure de son ciré et brandissant la lance de son havenot, ce Don Quichotte bigoudant part à l'assaut des éléments pour arracher au flot déchaîné le bouquet de crevettes qu'il offrira comme chaque dimanche que Dieu fait depuis 40 ans à Gwenaël Le Dréau, son inaccessible dulciné du Guilvinec. Erwan marche entre le phare du Moldu et la pointe du Moldec, quand soudain une ride profonde barre son front buriné, la ride du lion, de mer, celle des pêcheurs d'Islande. Erwan n'est pas seul sur la plage abandonnée, aux coquillages et crustacés. Un homme est là, échevelé, livide au milieu de la tempête. Les vents de l'océan ont laissé en ses cheveux de longs baisers mouillés. Il tient dans sa main mélancolique une bouteille. Erwan s'approche. Excusez-moi, vous ne seriez pas Chateaubriand ? Non, non, je suis brillant, mais pas du tout château. Dites-moi, mon bon, au lieu de faire de la littérature, vous pouvez me dire où se trouve la mer ? Si je sais où est la mer, par Saint-Guénolé, la mer, elle est partout, là, devant nous, jusque à l'horizon. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, justement, si je pose la question, c'est que la mer, je la cherche. Depuis 48 heures, j'attends qu'elle remonte, et je ne vois toujours rien. Une ride nouvelle et terrible scarifie le vaste front d'Erwan. La mer n'est plus là en effet, et c'est pourtant l'heure de la marée. De mémoire de Bigorneau, on n'a jamais vu chose pareille. Erwan se demande comment il va pouvoir pêcher ses crevettes pour sa dulcinée du Guilvinec. J'ai moi-même fait le jeune homme cette bouteille avec un message important à jeter à la mer, et j'attends. C'est sans doute ce qu'on appelle attendre sa correspondance. Oui. Dites-moi, mon brave, c'est quoi le nom de cet endroit ?
Ici, c'est le rivage des Sirtes, répond Erwan qui s'agace comme tous les braves types qu'on le traite de brave.
Le rivage des Sirtes, fait le jeune homme. Prix Goncourt 51, refusé. Et si la mer aussi avait refusé aujourd'hui de monter ? Si elle faisait la grève, la mer, pour protester contre les algues vertes, c'est pratique une plage pour faire la grève. Ou bien... elle est allée danser le long des golfes clairs. Ou alors quelqu'un l'a prise, la mer, et refuse de la rendre. Erwan n'en sait rien, il voudrait bien que la mer toujours recommencée, justement recommence à faire des blancs moutons et des crevettes roses. Il pleut, bien sûr. Et nos deux Beach Boys, que la farce du destin a fait se rencontrer, décident de partir à la recherche de la mer.
La pointe du Moldec n'est plus qu'un océan de cailloux constellés de goémons et de guano. Alors il faut aller plus loin, jusqu'au phare du Moldu, ce tourmalet bigoudin. Arrivé au sommet de ce colosse de granit, après 760 marches d'ascension, Erwan et son compagnon découvrent que là-haut, il n'y a rien. Rien ni personne. Le silence, pire que le silence de la mer, le silence sans la mer. Il faut redescendre sur Terre, 767 marches, et aller plus loin, à pied, vers l'ouest, pour trouver la mer, jusqu'en Amérique, aller savoir. Ils avancent, et il pleut. Soudain, après une heure de longue marche, une nouvelle ride sillonne douloureusement le beau visage parcheminé d'Erwan Le Gloanec. « Mon avenot, j'ai oublié en haut du phare, mon avenot !» rugit le vieil Erwan. Oh, « Et moi, ma bouteille avec mon message !» hurle le jeune homme. Alors, de rechef, les deux hommes, le travailleur de la mer et le poète, partent à l'assaut du phare solitaire. Arrivés en haut, hors d'haleine, écumants, fourbus, flappis, quelle n'est pas leur stupéfaction de découvrir
trois possibilités pour la suite, pour la Hervé Le Tellier.
Premièrement, Gwenaëlle Le Dréau, la dulcinée du Guilvinec, tranquillement attablée avec Loïc Le Bihan, le gardien du phare, en train de déguster un bouquet de crevettes.
Ouais.
Deuxièmement, Victor Hugo, ayant débouché la bouteille à la mer et lisant avec un certain sourire le mystérieux message. Troisièmement, que pendant leur ascension, inexplicablement, la mer est remontée avec la vigueur d'un cheval au galop, engloutissant tout sur son passage, les rochers, les escaliers du phare, et qu'ils sont maintenant seuls au monde, tout là-haut, perdus au milieu des flots.
Oh, quelle belle histoire, hein.
Oui, oui.
Il y a des beaux personnages, il y a Erwan, il est très sexy en plus avec ses rides. Il y a évidemment la dulcinée du Guilvinec, ce sera Dominique Müller, c'est un très beau rôle pour elle. Et donc, Hervé Le Tellier, vous relayez ce roman,
oui.
Vous choisissez une des trois possibilités, vous poursuivez.
Absolument, je prends la troisième possibilité.
Rappelez-nous.
La mer est remontée avec la vigueur d'un cheval au triple galop. Le premier chapitre s'appelant « Le vieil homme est ta mère », ce deuxième chapitre s'appelle « Le vieil homme est ta sœur ». Eh bien oui. La mer est remontée avec la vigueur d'un cheval au triple galop, engloutissant tout sur son passage, les rochers, les escaliers du phare, et ils sont maintenant seuls au monde, tout là-haut, perdus au milieu des flots. Mais il fait toujours aussi froid, la mouette rieuse gloupiote, le chouchène gèle dans les verres, l'huître se referme en grelottant de la nacre. « Oh !» fait Erwan, très essoufflé. « Regardez, la mer est revenue. » Je n'ai pas compris, vous êtes trop essoufflé. Je disais, la mer est de retour, elle est revenue, quoi. Ah oui. Oui, oui, Poséidon est bien capricieux en ce moment. Notez que je l'ai toujours connu comme ça. Mais nous ne nous sommes pas présentés, dit Erwan, soudain embarrassé devant les manques évidents du premier chapitre. Et bien des... Oui, vous l'avez remarqué, vous aussi.
Ah, c'est cruel, ça.
Ouais. Et bien décidé à clore la scène d'exposition. Je m'appelle Erwan, et vous? Ah, on va le savoir. Ulysse. Ulysse? Ulysse comme Pénélope? Dit Erwan. C'est quand même assez saut comme réflexion. C'est moi. Mais je croyais que vous étiez rentré à Ithaque depuis longtemps. Pensez-vous, les gens aiment les happy end, alors dans l'Odyssée, Homer m'y a fait débarquer à Ithaque. J'ai tué les prétendants, j'ai retrouvé Télémaque et Péné, mais c'est en vrai, je suis coincé ici depuis un bon bout de temps. Regardez l'épave là-bas, à la pointe du Moldec, vous la voyez? Eh bien, c'est tout ce qui reste du Titanos, mon bateau. Un écueil, ça ne pardonne pas. Et d'ailleurs, voyez-vous, cette bouteille contient un message pour Pénélope. Oh, vous lui envoyez des bouteilles, c'est moderne. Ben, c'est-à-dire que, avant, je lui envoyais des amphores, dit Ulysse la visée. Mais depuis quelques siècles, j'ai du mal à en trouver. Pardonnez-moi mon insistance, mais elle n'a pas de portable. Ben, on voit bien que vous ne connaissez pas Pénélope. Elle a horreur de tout ce qui est moderne, dit Ulysse, le rusé compagnon. Tenez, quand on a inventé la navette pour le métier à tisser, eh ben elle a piqué une crise homérique. Ah, mais alors vous lui écrivez quoi, par exemple, dans cette bouteille? Ben, c'est-à-dire au début, je lui disais, c'est par hasard, Pénélope, que ton affectueuse lettre est enfin parvenue au malheureux Ulysse. En reconnaissant ta main chérie et ton cachet fidèle, il s'est senti soulagé de ses longs tourments. Tu m'accuses de paresse. Ah, combien j'aimerais mieux que cette imputation fût fondée que d'avoir à te raconter tout ce que j'ai souffert. et tout ce que je dois souffrir encore. Ce n'est pas le reproche que me fit la Grèce quand une feinte démence enchaînait mes vaisseaux dans le port d'Ithaque, etc., etc., etc. C'est beau. Oui, c'est beau, mais enfin, maintenant, c'est plutôt... On navigue dans les environs de l'île de Sein, on se laisse bronzer, on mange admirablement, j'ai pris un de ces coups de soleil, baisé et tout. Bon, le style est un peu moins léché, je le concède, mais enfin, la chair est triste, et là, c'est... Avec tout ce temps, j'ai lu tous les livres, hein, même Le Rivage des Syrtes. Alors, Dieu sait si Le Rivage des Syrtes, j'en ai abordé. Bon, alors à ma décharge, ça fait quand même 3000 ans que je suis parti. Hein. Ah, vous ne les faites pas. Ben, c'est les crêpes et le chouchen. Hein. Ça conserve, dit l'homme aux mille ruses. Le régime crétois, croyez-moi, c'est très surfait. Et vous, vous faites quoi dans la vie? Une ride ancienne et formidable balafre le large front d'Erwan. Il lui revient le doux visage de Gwenoël le Dréau. Alors Erwan narre à Ulysse son drame intime, sa dulcinée du Gilvanec, du Gilvinec, du Gilvonec, qui doit l'attendre au bord de la grève. Il lui revient aussi le bouquet de crevettes qu'il devait lui offrir, comme il le fait chaque dimanche depuis 40 ans. Chacun sa Pénélope, conclut l'ingénieux Ulysse. Si vous voulez, poursuit l'homme aux mille expédients, j'ai une deuxième bouteille, on peut y mettre un mot pour votre Gwenaël. Vous lui expliqueriez la mer disparue, la marche, le phare, la marée apparue, tout ça. Et en PS, vous n'oubliez pas de lui demander d'envoyer des secours. Ah, des secours! Excellente idée, dit Erwan. Ainsi font-ils. Les deux bouteilles partent vers le large, emmenées par un courant puissant. Et là, trois solutions. 1. La bouteille destinée à Gwenaël le Dréau arrive rapidement à Pénélope, qui n'y comprend rien. D'autant que c'est écrit en français, mais décide de prendre le premier bateau pour Plouganou-Castroven. Deuxième option. La bouteille destinée à Pénélope arrive à Gwenaël le Dréau, alors que la dulcinée de Gilvinec, déguste sur le port de Plouganou un bouquet de crevettes avec Loïc le Bihan, le gardien de phare. Elle n'y comprend rien non plus et décide de reprendre des bulots.
Des bulots.
3. La mer se retire une nouvelle fois et nos deux héros en profitent pour regagner la terre ferme d'un pas rapide, d'autant que, au loin, Ulysse croit reconnaître le pas décidé du géant Polyphème. Il pleut à présent des hallebardes de la taille d'un menhir.
Ah, c'est une belle histoire, c'est très culturel. Et alors, le roman vous revient pour le dernier chapitre, Lucas Fournier.
En fait, il y a 12 chapitres.
Ah bon ?
Oui, je vous fais le troisième maintenant.
D'accord.
Chapitre 3, oui. Les crevettes du bonheur. J'ai choisi la troisième hypothèse. La mer se retire une nouvelle fois et nos deux héros en profitent pour regagner la terre ferme d'un pas rapide, d'autant qu'au loin, Ulysse croit reconnaître le pas décidé du géant...
du goéland.
Avec ce qui pleut aussi, parce qu'il pleut à présent des hallebardes de la taille du menhir, et Ulysse croit reconnaître le pas décidé du géant Polyphème. Polyphème, ce n'est pas un nom de chez nous, hein, constate Erwan. Non. C'est un cyclope, fils de Poséidon et de la nymphe Thoosa, précise Ulysse, assez content d'étaler sa culture cyclopédique. Il est très très méchant. Et il me poursuit depuis le début de l'histoire, pas la vôtre qui n'a que deux chapitres, mais la mienne, qui se déroule depuis près de 3000 ans. Erwan, vexé dans son honneur breton, veut montrer à l'étranger que le Bigoudan est peu pleutre. Et n'écoutant que son courage, le voici qui fait soudain demi-tour, qui court vers ce géant menaçant dont l'œil luit sous la pluie. Oui, le voici avec son haveneau qu'il tient tel une lance de chevalier. Haveneau qu'il a récupéré en haut du phare, ce que le chapitre précédent avait oublié de préciser. Donc, casqué, cuirassé, lance en avant, Erwan, comme un Don Quichotte, non pas de la Manche, mais de l'Atlantique, part à l'assaut du géant. C'est alors qu'Ulysse réalise que ce qu'il a pris de loin pour l'œil du cyclope est en fait la lampe du phare du Moldu, dressé comme un destroyer dans la brume. Ulysse quitte alors le rivage des Syrtes, se lance à la poursuite d'Erwan pour tenter de l'empêcher d'aller se fracasser contre cet obélisque de granit. Le choc va être ugolien. La mouette rieuse ne rigole plus, les menhirs se pétrifient et le fucus vésiculeux se fait de la bile.
trop tard. Doublement trop tard. La mère arrive comme un cheval au triple galop, arrache Erwan du sable et l'expédie vers le sommet du phare où il parvient à agripper ses rudes mains de travailleurs de la mer. Et là, tel Ned Land, le harponneur de 20 000 lieues sous les mers, Erwan plante le manche du havenot dans l'œil du monstre. En réalité, c'est l'ampoule de la lampe du phare 5000 watts qui pète. Réalisant tout à la fois sa terrible méprise et la gravité de son geste, Erwan éclate en sanglots. « Oh, je suis un misérable, je suis un misérable !» La main amicale d'Ulysse, très essoufflée parce que lui a dû les gravir, au galop les 760 marches, se pose sur son épaule. « Non, mon vieux, après l'Odyssée et Don Quichotte, ne nous rajoutez pas les misérables, cette histoire est déjà assez compliquée comme ça !»« Ouh, elle est encore plus que vous ne le pensez, messieurs, je suis le génie de la lampe !» fait une voix. Non, dans la guérite assombrie du phare, nos deux héros aperçoivent une, non, deux silhouettes attablées. L'un des convives allume une bougie. C'est Loïc le Bihan, le gardien du phare. En face de lui, un personnage susote des bulots. « Bon appétit, messieurs », fait Erwan pour lancer la conversation.
« Bon appétit, messieurs, dames, corrige aussitôt l'autre convive. »
Avec une voix nulle autre pareille, la voix de Gwenaël Le Dréau, la dulcinée du Guilvinec qu'Erwan reconnaît aussitôt. Oh, cela fait beaucoup pour le pauvre front d'Erwan qu'une nouvelle scarification douloureuse déchire d'est en ouest. Parle sans t'émouvoir, Gwenaël, lui dit Erwan.
Je ne suis pas Gwenaël. Mon véritable nom est Pénélope. Asseyez-vous, je vais vous raconter mon histoire. Elle est longue, mais magnifique. Non. Tout commence à Ithaque.
S'il te plaît, épargne-nous ton récit. La bougie s'éteint, la nuit tombe, il n'y a presque plus de bulots et les bouteilles sont vides, ajoute Loïc en regardant Ulysse.
Bon, d'accord. C'est vrai qu'ils sont bons, ces bulots. Bon, alors, j'ai juré fidélité à mon Ulysse. Et quand je me suis réfugiée ici, j'ai promis à tous mes prétendus ou prétendants que je me marierais seulement quand j'aurai achevé tout le plafond de la cathédrale de Quimper en mosaïque. Toute la vie de Saint-Guénolé en queue de crevettes. Oui, ces crevettes que tu me livrais chaque dimanche. Depuis 40 ans, mon bon Erwan. Et l'œuvre était presque achevée. Il me manquait, quoi, 3 douzaines de bouquets. Alors, pour éviter l'irréparable, pour rester fidèle à mon Ulysse, je me suis résolue à faire appel à Loïc le Bihan. Oui, Loïc, le génie de la lampe des mille et une nuits, réfugié politique en haut du phare. Lui seul pouvait arrêter le cours des marées.
Ah, oh, ces mots, Ulysse se jette dans les bras de Gwenaël avec les effusions d'usage. Oh, ma peinée, ma peinée.
Ah, oh, mon Ulysse, tu aurais pu m'écrire en 3000 ans.
Il pleut sur le moldu, le menhir frissonne et le pétoncle s'enrhume. Le cormoran a le bec dans l'eau, si bien qu'on ne voit pas où est le bec. Erwan le Gloanec sourit, lui est au sec. Il regarde son vieux avenot qui brûle dans la cheminée. Son front s'est soudain déridé des rudes entailles qui le balafraient. 40 ans qu'il attendait ça. Coquillages et crustacés, c'est assez. Le vent se lève, il va tenter de vivre.
Oh. Patrice Minet, toutes les belles histoires s'achèvent en chanson. Donc là, vous avez reçu ce roman en plein cœur, j'imagine, ah, comme nous.
Oui, j'ai été très ému, oui.
Et ça vous a inspiré quel genre de chanson, sur quel air?
C'est une chanson que je vais chanter sur l'air d'Amsterdam.
De Brel.
De Brel, oui, Amsterdam, joli port breton.
Allez-y au micro-chant, Patrice. Avec Gabriel Godard au piano.
Dans le phare de Moldu, y'a Erwan le Gloanec qui pêche la crevette au large de Moldu. Dans le phare de Moldu, le Dréau Gwenaël préserve sa vertu au fond d'une bouteille. Dans le phare de Moldu, y'a Loïc le Bihan dont la tâche est ardue à cause du mauvais temps. Mais dans le phare de Moldu, il y a encore Dulcinée, et Ulysse et René, et Polyphème en plus. Dans le phare de Moldu, il y a des poissons qui mangent dans des courants trop froids des petits asticots. Ils vous montrent des dents quand viraient bien des poules. Emportés par la houle, ils bouffent par tous les temps. Et ça sent le goéland jusque dans le cœur des moules qui s'agrippent en foule sur les rocs ruisselants, puis se mettent à hurler au cœur de la tempête, refermant leurs coquilles, l'écume, ça fout les boules. Dans le phare de Moldu, il y a des poissons qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent de l'eau salée, elle est froide à Moldu, à Quimper ou ailleurs, mais il n'y a que ça à boire. Ils ondulent leur joli corps, buvant leur eau tout nue, du matin jusqu'au soir, et quand ils ont bien bu, jaillissent à la surface, repèrent vite fait un string, et ils mordent le cul des dames qui font la planche, dans le phare de Moldu, dans le phare de Moldu.
Et c'est le moment, après la séance reprendra, c'est le moment d'accueillir Ricardo Mosner et son tableau des 30 ans. C'est beau. Il vous plaît, vous avez envie d'en gagner un bout. Hein. Ah ouais. Vous êtes 863. Il y a 30 parts du tableau.
Qui n'en veut pas?
On va le garder un petit peu comme ça, en entier, pour l'admirer, avant de le découper.
Ah, il a l'inverse. Bon, c'est pas grave.
Ça s'est bien passé la journée, Ricardo?
Excellent.
Excellent.
On a bu, on a parlé.
D'accord, c'était joyeux. On va l'admirer, on ne va pas le découper tout de suite, on va continuer la séance et je vous donnerai le signal pour la découpe, Ricardo, d'accord?
Oui.
Ok, on y retourne. Vous savez quoi? On va écouter Jean-Bernard Pouy maintenant. Racontez-moi un petit peu votre journée de reporter sur l'événement Le tableau des 30 ans de Ricardo Mosner.
Une journée, c'est trois quarts d'heure, hein, donc c'est un peu...
Ah, vous trouvez que vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour écrire?
Ben non, parce qu'arrivé en bas, déjà, il a fallu boire du pisco, juste comme ça. Enfin,
ah bon? Ah mais nous, on n'est pas vraiment au courant.
J'ai pas
ça.
Tout compris.
Ouais. Alors racontez-nous.
Non, mais comme la toile était en train de se faire, évidemment, j'avais pas beaucoup d'éléments. Donc, je me suis dit que je vais faire un texte sérieux, pour une fois.
Allez.
Ce qui frappe d'abord, c'est la préciosité aérée de la toile. Peut-être est-ce dû au dehors, aux grandes baies, donnant sur un Paris gris et brouillardeux, alors qu'on s'attendait à une lumière fleurant bon les bouges argentins, à la fumée des cigarettes en papier journal, au parquet constellé de bouteilles vides de pisco, sur lequel glissent des couples un peu malfamés, accouplés quasi obscènement sous les accords coquins et pervers d'une milongue, voire même d'un tango. Et pourtant, nous savons que Carlos Gardel n'est pas forcément la tasse de maté de Ricardo, qui préfère les malfrats tatoués et perdus de Comodoro Rivadavia, la lame du couteau passée dans la ceinture, acier propre aussi bien à découper un churrasco brûlant qu'à percer la panse nerveuse d'un nervi de passage. Mais donc on est saisi par une douce ambiance, comme si l'aube venait de se lever sur la pampa et le Chaco, comme si le drame n'était pas encore là. Le drame arriverait au soir ou à la nuit, et c'est déjà un mystère profond, aussi insondable que la lumière du frigo, dont on ne sait jamais une fois la porte fermée si elle est allumée ou pas. Ou bien alors un autre mystère, celui du triangle des Bermudes, dont on ne saura jamais s'il est isocèle ou équilatéral. Ce qu'on devine, c'est que tous ces paysages mentaux, à base d'un jaune de petit matin et du bleu du grand vent qui surgit de l'horizon, vont bientôt être habités par des personnages, sans doute étonnants, car Ricardo a la réputation de travailler du chapeau. Ça se voit, comme le cheval au milieu des herbes hautes. Et là, peut-être que ces figures nous rappelleront les mythes argentins, ces anacondas qui glissent en douceur sous les planches vermoulues des boui-boui, ces vomissures mêlées à du sang imbibant le sable de la ruelle poussiéreuse, la sueur acerbe des gauchos épuisés, les poèmes de Borges en mi-teinte inquiétante, la beauté fanée des femmes trahies, l'espoir de la révolution, le regard voilé des Indiens Mapuche, et pourtant s'y mêlent déjà les esquisses de portraits d'êtres rigolards, décalés, prêts à tout. Des gens qui peuvent s'envoler d'un seul coup dans les nuées ou nager tout leur sou au milieu des piranhas. Voilà, le mot est dit, sou, une peinture ivre, ivre de vent, de vin, de cris, de mots. Une peinture qui est comme tous les riques.
Il montre ses toiles en même temps. Ça illustre très bien vos propos, Jean-Bernard Puy.
Une peinture qui est comme tous les Ricardo du monde, des Ricardo au cerveau troué, où sifflent les rafales des vents venant de la Concagua, où passent les poésies les plus acerbes, les plus âpres, celles qui parlent d'amour et de mort, de souffrance injuste et de vie stoppée nette, comme la course d'un cheval sauvage, celles qui parlent aussi de la ville sombre, inquiétante, puante, perdue d'avance, même si les bords du Rio de la Plata sont toujours aussi luminescents qu'une dague acérée, même si les nuages venant de Mendoza restent clairs et rassurants, même si les bouches de Buenos Aires ne sont pas remplies d'un si bon air que ça, même si Ricardo sans doute va affubler sa toile de trogne, buriné ou gominé, au nom souvent basique et imprononçable, comme les personnages d'un théâtre de la cruauté, comme des marionnettes de la Commedia dell'arte, où, sous la comédie, se trament toujours des tragédies, se terminant par la trahison, les coups de poignard et les rires disproportionnés, un paysage non pas empli de risques, mais de rixes, où le feu prend toujours dans les roseaux, où le soleil glace le sang déjà caillé dans les caniveaux. Bref, tout un monde flou et précis à la fois, net et ondulant comme la musique sortie d'un bandoneon, cette poignante tristesse qui fait pourtant danser les êtres désespérés, et surtout, pour notre bonheur, danser ceux qui se disent artistes, qui se disent peintres, et qui n'hésitent jamais à le prouver, même avec un chapeau à la con, qui ressemble... Un chapeau qui ressemble fort à une carapace de tatou avec laquelle, vous le savez, on fait des charangos.
Bravo. Les sardines chantent traînées, le jardin extraordinaire.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant
thank you very much, Monsieur Twenet.
On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain,
des petits morceaux de gruyère.
Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entrée par hasard dans ce jardin extraordinaire, loin des marbres d'hommes et des passages cloutés. Il y avait un bal de l'été dans un coin vert, de petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit:
quelle distinction!
Maman, dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et l'âme dit sans manière:
vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent.
Il fallait bien trouver dans ces grandes villes perverses une gentille amourette, un petit fleur de 20 ans,
qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui, mais pardon.
Dans ce jardin extraordinaire,
Un ange nous dit,
étendez-vous
sur la veille de
bruyère.
Je vous jure, dit pendant que vous serez réunis.
Cet agent était un grand poète,
mais nous préférions Artémis et moi.
La douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond d'un bois.
Pour ceux qui veulent savoir où jardin se trouve, il est beau, le voyez au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.
Le diagnostic littéraire à l'aveugle, les experts de choc, des experts fins lettrés, Dominique Muller, Eva Almassi, Patrice Minet et Serge Joncourt, il leur arrive de trouver. Pas toujours. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Bien, ils doivent trouver le nom de l'auteur d'un texte qui a été choisi par Lucas Fournier. C'est donc lui le piégeur. C'est lui qui a fouillé dans sa bibliothèque et trouvé une quinzaine de lignes dont il s'est dit « Ah, ça, c'est une bonne idée pour un DLA, diagnostic littéraire à l'aveugle ». On le découvre, ce texte, Lucas.
Au dernier jour de sa convalescence, sur la plage californienne de Dorado, Mrs. Smithson alla un soir au concert. On jouait la sonate au clair de lune en jazz hot. Le charme de Beethoven et de sa musique endiablée agit sur son imagination de telle sorte qu'elle devint amoureuse du joueur de batterie, lequel embarquait le surlendemain pour les Philippines. 15 jours plus tard, elle dépêchait un double à Manille, cueillait le musicien à son arrivée et se faisait aimer. Dans le même temps, Lady Burberry s'éprenait d'un chasseur de panthères au seul vu de sa photo dans un magazine et lui déléguait un double à Java. La femme du ténor, en quittant Stockholm, y laissa un double pour faire la connaissance d'un jeune choriste qu'elle avait remarqué à l'opéra, tandis que Rosalie Valdez y Samaniego, dont le mari venait d'être mangé par une tribu papou à l'occasion d'une fête religieuse, se multiplier par 4 pour l'amour d'autant de beaux garçons rencontrés dans différents ports océaniens. Bientôt, la malheureuse ubiquiste fut saisie d'une frénésie de luxure et eut des amants sur tous les points du globe, le nombre en augmentait au rythme d'une progression géométrique dont la raison était 2,7.
C'est pas mal, hein, c'est intriguant. Évidemment, il y a beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de choses, et puis il y a Il y a cette sonate au clair de lune en jazz. Alors, je me demande ce que ça peut donner à l'époque. Vous avez une idée, Jeanne Carillon?
Ben, je sais pas. Jazz un petit peu, haute, ben, je sais pas.
Vous pouvez nous chantonner? Non?
Dam, 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 dum, dam, dam, dam.
Oui. C'est une amie.
Dam, 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 dum, dum, dam, dam. Dum, dim, dam, dum, dim, dam, 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 dum. Doudi-doudi-doudam, pa-la-pa. Oh, je sais pas.
Non, c'est bien.
Je continue combien de temps comme ça?
Est-ce que cet extrait de la sonate de Beethoven par Jeanne Carillon, Dominique Muller, vous a donné le temps de réfléchir?
Justement, déjà, je connaissais pas l'auteur et maintenant, je reconnais même plus Beethoven. Ça ne sert à rien.
Ah bon?
Ça change pas, oui.
C'est embêtant. Alors, une première impression, Dominique.
Eh bien, l'auteur est un mathématicien. C'est tout ce que je pense. Parce que à tout le monde se met en double. Il y a l'ubiquité. Il y a une dame qui se met en quatre. Il y a évidemment la progression géométrique dont la raison était 2,7. Oui. Il semble que le style soit vraiment très arithmétique.
D'accord.
Donc, vous savez, ce jeune mathématicien qui est mort à 33 ans, qui était Évariste Galois. Voilà, je dirais que c'est d'Évariste Galois.
Ah oui, non, mais c'est un peu prématuré pour lancer des noms. Serge Joncourt, une impression comme ça?
Oui, écoutez, c'est en voyage. Hein. Donc, ce qui m'intrigue, c'est la première phrase déjà. Enfin, tout finalement.
Allez-y, dites-nous.
Au dernier jour de sa convalescence sur la plage californienne. Je vois une convalescence sur une plage californienne.
C'est pas désagréable, sûrement.
Oui, enfin, c'est pas l'endroit idéal pour une convalescence, une plage californienne, non, je sais pas, moi.
Ah
bon?
Ça dépend de la maladie.
Oui, plutôt ça,
aussi.
Davos. Hein. Oui, ça dépend de la maladie.
À la montagne,
oui.
Ça dépend de ce qu'on a.
Ça dépend de ce qu'on a, donc je vois pas bien ce qu'elle a, la pauvre Mrs. Smithson.
Oui.
Ensuite, bon, en fait, je croyais qu'il s'agissait toujours de Mrs. Smithson, mais c'est Lady Burberry qui s'est prendue chasseur de panthères. Qu'elle
a vu
dans le magazine.
Il y a plusieurs personnages dans l'histoire.
Il y en a un peu beaucoup, hein. Il y en a un peu beaucoup.
Oui.
Alors, je suis pas sûr. La seule indication, là, que je peux vous donner, là, c'est pas un grand roman. C'est pas quelque chose de ample. Parce qu'on peut pas tenir à ce rythme, pendant 600 pages, si vous voulez. Parce que si à chaque paragraphe, vous me sortez quatre personnages qui eux-mêmes projettent un amour à venir sur un chasseur de jazz ou un joueur de panthère ou inversement, en passant de Stockholm à Java pendant que les papous sont à l'opéra, enfin, y a un petit paragraphe là.
C'est dense.
C'est dense, oui.
C'est dense.
Donc on est dans du format court.
D'accord. Première impression, Eva Almassi.
C'est qu'elle a fait peut-être sa convalescence, mais elle est toujours malade. On n'y comprend rien. J'ai jamais lu un texte de près ou de loin qui ressemblait à ça.
Ah oui?
Voilà. Alors moi, je vais partir d'une idée. L'auteur quitte Stockholm. À mon avis, il n'a pas reçu le prix Nobel.
Non.
Pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai.
Mais c'est un très bon apport, Eva. C'est très, très intéressant.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce qu'il a à dire, Patrice Spinet, comme ça, au débeauté?
Au débeauté, je vois le début du texte, au dernier jour, et je me dis que ça va mal finir. Et puis, derrière, il y a de sa convalescence.
Oui.
Et je me dis qu'il y a une petite rémission. Et puis ensuite, les événements se succèdent, les amants, les panthères, les tribus papous, et j'arrive à la fin du texte et j'ai oublié le début. Donc je relis le début que je vais vous épargner. Voilà, j'en suis là.
Bon, alors on va essayer de progresser un petit peu avec vous, Dominique Muller. Une idée de l'écriture d'abord. Est-ce que c'est écrit directement en français ou est-ce une traduction? J'ai l'impression que la question se pose
comment
vraiment.
Comment savoir?
Ah ben, c'est à vous de dire.
Eh bien, moi, je dirais que c'est écrit en français. Oui, oui, oui.
Pourquoi?
Eh bien, parce que seule une écriture en français serait aussi éprise d'étrangers, si vous voyez ce que je veux dire. On voyage beaucoup, il y a l'opéra, il y a Manille, il y a Java, il y a Stockholm, il y a les tribus papous, il y a Rosalie. Enfin, il y a trop d'exotisme pour que ce ne soit pas vraiment français. Le français aime l'exotisme.
Il aime l'idée de voyager. Il reste chez lui, mais il aime
l'exotisme
le rêve.
Fantasmé. Voilà. Voilà. Ouais. Et alors, évidemment, je continue à être intriguée par cette idée de double. Pourquoi est-ce que tout le monde, au lieu de faire les choses le plus simplement du monde, comme dans un brave roman où les gens s'aiment et se tombent dans les bras, pourquoi est-ce qu'on envoie toujours un double quelque part?
Voilà. Ah, ben ça, c'est peut-être le nœud de l'histoire et c'est peut-être la clé de l'auteur.
Oui, oui.
Serge Joncourt, vous étiez un petit peu en survol du texte. Est-ce que vous atterrissez?
Franchement, j'aimerais tellement vous aider. J'aimerais, comment dire, non, mais à titre amical déjà, j'aimerais bien pouvoir vous avancer une sorte d'argument définitif comme ça, qui moi-même me rassurerait. Le problème, c'est que plus je le relis là, tout en vous écoutant, plus je n'y comprends rien et j'ai du mal à passer de, excusez-moi, j'ai peu d'imagination, mais j'ai du mal à passer de la Californie à Stockholm en passant par l'opéra et pour finir.
Puis de prendre un avion.
Oui, mais j'ai peur de l'avion. J'ai une sorte j'ai une phobie de ce texte.
Ah bon?
Oui. Il me fait très peur. D'un seul coup, je réalise qu'en fait, depuis le début, je ne comprends rien au monde, à ma vie.
Pourquoi vous êtes là et tout.
Oui. Cette madame Smithson. Alors.
Les noms,
quand même,
les noms,
une intuition. Oui. Ouais. J'en ai un petit peu. Ces noms sonnent faux. Mrs. Smithson, quel auteur va tout.
Ouais, c'est ce que je vous demande, quel auteur.
C'est un faux. Non. C'est un faux auteur. Lady Burberry, franchement, il n'a aucune imagination il en a trop.
Vous pensez que c'est un pastiche?
Ah, bah oui, j'espère. J'espère pour lui. Un pastiche de Marseille ou d'ailleurs, mais enfin, je. C'est un bon pastis avec deux glaçons.
De Marseille,
ça serait assez bienvenu, je comprends. Vous venez de comprendre?
Je viens de comprendre. Oui, j'ai un petit décalage, je ne suis pas la seule. Hein.
Décalage horaire, ça, c'est les voyages.
Eva Almassi, on progresse avec vous? Parce qu'avec eux, on est noyés.
Moi, je pense que c'est une traduction, parce qu'il y a des verbes qui ne sont pas naturels en français. Déléguin, un double. Dépêchette, un double. Il laisse ça un double. C'est un petit peu recherché. Mais bon, j'essaie quand même de faire le compte. Alors, s'il y a trois doubles, puis on multiplie par quatre et j'ai compté sept personnages. 36 plus un mari, 37 moins un. 36 à nouveau, et donc j'en viens à 4. En français, on se met en 4, on ne se multiplie pas par 4, et alors on a aussi des amants, enfin je parle d'expérience, aux quatre coins du globe et non pas à tous les points du globe, c'est un petit peu imprécis. Donc moi je pense à une traduction. Et pour faire avancer aussi, je dirais que ce texte a été écrit au XXe siècle et par un auteur peut-être diplomate qui s'ennuyait
tous les voyages,
à Manille, à Stockholm, qui écoutait beaucoup de musique.
Oui, Beethoven surtout.
Voilà.
Mais alors le jazzot quand même peut-être donne une idée de l'époque d'écriture, Patrice Minet.
XXe.
Le jazzot, je ne sais pas. Oui, parce que vous pouvez évoquer le jazzot au XXIe siècle quand même.
Oui, c'est vrai.
Oui, mais pas au XIXe.
Oui. Exactement, merci Serge. Non, je me demandais subitement si ma question était...
Non, elle est... C'est le point de repère, là, vous mettez le doigt.
Oui, c'est qu'on peut éliminer certains siècles.
Bah, disons que le simple terme en lui-même de jazz, de jazz hot, permet, si vous voulez, d'établir une sorte de charnière.
Hein, c'est-à-dire carbone 14.
Carbone 14, oui. Alors, on est au début du XXe siècle, 1900...
10, 15, 20, quoi.
Non, avant. Non, on peut partir de 1910, à peu près, hein, le mot jazz...
Non,
mais je vais vous poser une question. Vous faites le mot jazz, vous le datez de quel...
De 1907, en juin 1907.
Oui, juin 1907.
Ouais.
On est d'accord. Non, mais c'est important.
Moi, je dis, on progresse.
Oui, en tout cas, ça n'est pas un texte antérieur à 1907.
Voilà, exactement. Patrice Minet, pour vous, c'est écrit en français ou pas?
Pour moi, c'est écrit en français. C'est assez échevelé, vous voyez, comme le jazz hot. Et en fait, c'est très écrit.
Mais je trouve que c'est joliment écrit, personnellement.
Voilà. Et probablement par quelqu'un qui connaissait la musique, ou peut-être qui en jouait.
Voilà, un musicien.
Beethoven, en tout cas.
Non, pas Beethoven. Non, c'est 1907.
Alors, c'est peut-être, oui, c'est ça. C'est peut-être un des écrits prémonitoires de Beethoven. Mais je ne crois pas.
Non.
Parce qu'il n'aurait pas parlé de lui dans ces termes-là. Le charme de Beethoven et de sa musique endiablée, il n'aurait pas dit ça.
Non.
D'abord, il l'aurait dit en allemand. Et pour moi, c'est un texte en français.
Moi, je crois qu'il faut relire ce texte parce qu'il est complexe, Lucas Fournier.
Au dernier jour de sa convalescence sur la plage californienne de Dorado, Mrs. Smithson alla un soir au concert. On jouait la sonate au clair de lune en jazz hot. Le charme de Beethoven et de sa musique endiablée agit sur son imagination de telle sorte qu'elle devint amoureuse du joueur de batterie, lequel embarquait le surlendemain pour les Philippines. 15 jours plus tard, elle dépêchait un double à Manille, cueillait le musicien à son arrivée et se faisait aimer. Dans le même temps, Lady Burberry s'éprenait d'un chasseur de panthères au seul vu de sa photo dans un magazine et lui déléguait un double à Java. La femme du ténor, en quittant Stockholm, y laissa un double pour faire la connaissance d'un jeune choriste qu'elle avait remarqué à l'opéra, tandis que Rosaldi Valdez y Samaniego, dont le mari venait d'être mangé par une tribu papou à l'occasion d'une fête religieuse, se multipliait par 4 pour l'amour d'autant de beaux garçons rencontrés dans différents ports océaniens. Bientôt, la malheureuse ubiquiste fut saisie d'une frénésie de luxure et eut des amants sur tous les points du globe, le nombre en augmentait au rythme d'une progression géométrique dont la raison était 2,7.
Voilà, ça, il faut comprendre la formule mathématique, mais Dominique Muller, est-ce que ce ne serait pas un écrivain un petit peu joueur qui joue avec les situations, avec les personnages?
Enfin, évidemment, c'est un jeu. On a aussi l'impression que c'est un écrivain, tout ce qu'il y a de sérieux, mais qui invente un personnage qui tenterait d'écrire un roman et qui n'y arriverait pas. Je pense que nous tous qui avons essayé d'écrire même une lettre, parfois on trouve pas les mots et alors on a envie de dire « et puis soudain la montagne sauta en l'air » et enfin on commence à inventer. C'est-à-dire c'est une espèce de parodie de fiction, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, voilà. Là on progresse quand même sur...
Moyennant quoi, je vois un auteur très sérieux au contraire,
ah oui,
en train d'écrire sur le fait d'écrire.
En train de se regarder écrire finalement
à travers un personnage. Mais c'est vrai qu'il n'y a que quand on écrit et dans la fiction que les gens peuvent créer leur double ou se multiplier par 4. Mmh. Au fond, c'est une manière de dire que quand on écrit, on a le droit de faire n'importe quoi.
Mais Eva, quand on écrit ou quand on reste dans la pathologie, à une époque donnée, il était extrêmement à la mode dans la littérature populaire, mais aussi plus sérieuse, d'imaginer qu'on ait par exemple une femme hystérique qui, dont la pathologie consiste à avoir de multiples personnalités, mm-hmm, et qui peuvent être à la fois des Lady Burberry, des Rosalie Valdez et Samaniego.
Oui, un jour l'une, un jour l'autre.
Et qui ont de toute façon de multiples partenaires et des frénésies qui sont prises. Ouais. Par des... Donc moi je reste dans cette espèce de... pathologie fictive de l'auteur.
Quelqu'un qui est quand même assez malade.
C'est écrit après Sigmund Freud, ouais, bien sûr.
Ah, bah, on resserre la porte.
Donc c'est après les années 30.
Ah, Serge, vous aviez daté ça de 1907, je crois, avec Dominique. Bon, enfin, on n'est pas très loin.
Ça marche avec Freud aussi, je vous signale.
Ouais. Oui. Alors, vous êtes en train de gribouiller le texte, vous soulignez tout, et ça, oui, donne quoi dans votre pensée? De la clarté, Serge?
Non.
Ça, c'est quelque chose que je connais assez peu, d'une façon générale, comptez pas trop là-dessus. Non, j'étais interpellé par le 2,7, qui est de la fin.
Oui, 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 oui. Qui est non divisible.
Oui, alors c'est ça. Donc je ramenais à pi 3,1416. Oui. Et j'essayais, en fait, je faisais une soustraction tout bêtement, hein, de pi moins 2,7, et j'arrivais à 1,114,2. Enfin bon,
oui, et
j'ai pas fini là. Non, mais si vous voulez, il y a un moment, tout fait sens.
Ah bon?
Oui, tout fait sens.
Vous nous écrirez, hein?
Oui, non, mais vous savez, quand on, c'est un peu comme sa vie, quand on essaie d'embrasser ce magnifique panorama qui est une existence et qu'on n'y comprend plus rien, eh bien, on se rattache à l'instant, hein.
Oui.
Et moi, je suis resté sur 2,7. Bon, voilà, je veux dire, chacun, j'essaye de, est-ce que ça m'évoque quelque chose, 2,7? Alors, je suis pas assez bon en mathématiques ni en quoi que ce soit, d'ailleurs. C'est peut-être un...
C'est l'heure de la psychanalyse de Sergent.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais là, écoutez, là, vous, c'est une épreuve qui est un peu surhumaine. Hein.
Bon, je vais me tourner vers Patrice Minet.
J'ai compté.
Minet.
Oui, j'ai compté.
Et alors, ça fait quoi, si
alors,
vous avez compté?
Vous avez additionné un soir, double une fois, double fois, double trois fois, un jeune choriste, ensuite quatre pour l'amour, et vous arrivez à 27.
Mais moi, je suis arrivée à 37.
Alors, vous ne comptez pas de la même façon, tous les deux. Non. Patrice Minet, c'est un écrivain homme ou un écrivain femme qui a écrit ça? Est-ce qu'on peut dire? Je sais bien qu'il n'y a pas d'écriture masculine, féminine, mais enfin, le monde se divise quand même en deux. Il faudra trouver un nom d'auteur ou un nom d'une auteure.
Oui, je reconnais assez mal le style de Marguerite Duras.
Non, mais elle n'est pas la seule à écrire quand même.
Oui, je sais qu'il y en a d'autres, mais enfin... Il est quand même légèrement machiste, ce texte. La malheureuse ubiquiste, comme si on n'avait pas le droit d'aimer plusieurs hommes.
Oui, voilà. C'est moralement, oui, c'est vrai. C'est...
Non, je pense que c'est un homme.
C'est un homme qui a écrit ça. Oui. Pour vous aussi, Eva?
Oui, je pense que c'est un homme qui a écrit ça. Il y avait bien des femmes qui écrivaient sur les hystériques, comme Erika Jong, quand elle était encore à la mode avec son ami, avec
on joue avec des écrivains très connus.
Mais ça, c'est un homme, et c'est peut-être un joueur d'échecs. Il y en a beaucoup parmi les écrivains qui, parce que ça se multiplie, comme vous savez, comme quand vous mettez juste un grain de blé sur la première case, ensuite deux, puis quatre, gna gna gna, et les amants se multiplient exactement de cette façon, et à la fin vous arrivez à un nombre vraiment incroyable.
Alors, j'ai jamais fait ce test de là, moi.
10 puissance 33.
Le test du grain de blé, je connais pas. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de lancer des noms, parce qu'il va falloir en donner des noms, Dominique Muller?
Vous voulez un nom?
Ben oui, allez.
Alors, je pense que c'est soit un homme, soit une femme.
Ah.
Et donc, je dirais Nabokov.
Ah, bah,
voilà, un joueur d'échecs.
J'ai dit certes que c'était en français, mais il a habité en Suisse, donc ça colle aussi, quoi.
C'est pas mal. Patrice Minet.
Moi, je pense plutôt à un musicien mathématicien, et je pensais à Boris Vian.
Ah, oui. Il y a des gens dans la salle qui disent oui. Vous pensez à Boris Vian dans la salle?
Oui.
Ah oui, beaucoup.
Je leur ai soufflé.
Je suis pas sûre qu'il faille vous suivre pour autant. Hein. Eva Almassi, une idée?
Voilà, c'est deux noms que j'avais notés aussi, Vian d'abord pour le jazz et puis Nabokov à cause du jeu d'échecs comme aussi Zweig, mais j'ai pas envie de dire les mêmes, alors je vais prendre quelqu'un de l'hémisphère sud, je vais prendre Cortazar, Julio Cortazar.
Vous n'avez pas l'air sûr de vous quand même.
Pas du tout.
C'est
alors,
au pif.
Vraiment pas. Non, je suis sûre que c'est pas lui.
Mais c'est un excellent écrivain, Cortazar. Serge, il n'y a plus que vous.
Oui.
La salle est très Vian. Ici, ça se partage. Cortazar, Nabokov, Vian. Mais Eva pensait aussi à Vian. Tout le monde pense à Vian.
Oui, parce qu'il y a du jazz, parce qu'il y a un joueur de batterie, parce qu'il y a Mrs. Misson. Ça sent ça serait plus Vernon Sullivan que Vian, d'ailleurs. Hein, mais
peut-être.
En fait, je pense que finalement, c'est un texte assez sérieux, en tout cas dans l'intention.
Oui.
Et il me semble... c'est Claude Lévi-Strauss. Hein, on l'a entendu. J'ai souvenir qu'il avait tentative, comme ça, un projet, tout du moins... certaines heures, il s'ennuyait quand même. Là. Et il avait projeté d'écrire un roman. Et bon, je pense que c'est le début. C'est le début. Alors, il a pas pu s'empêcher d'introduire des papous. Alors, qui d'autre que
Lévi-Strauss
aurait l'idée
de le début, on est déjà au dernier jour de sa convalescence.
C'est une sorte de contre-pied à son quotidien, le pauvre, imaginez-vous. C'est terrible.
Et est-ce que vous avez dit précédemment? Mais on a le droit de changer d'avis.
Je ne sais plus ce que j'ai dit précédemment.
Alors. Si je résume, Dominique Muller opte pour Vladimir Nabokov, Patrice Minet pour Boris Vian, Eva Almassi pour Julio Cortazar et Serge Joncourt pour Claude Lévi-Strauss. Y a-t-il un gagnant au premier tour? Lucas Fournier.
Pour l'instant, tout reste à faire.
C'est mauvais signe.
Donc c'est ni Boris Vian, ni Cortazar, ni Lévi-Strauss. Je suis désolée Serge, c'était bien argumenté.
Donc exceptionnellement, puisque vous êtes... deux hommes et deux femmes,
oui.
Je vais vous proposer quatre noms. pour respecter la parité. Donc, je vais vous proposer deux hommes et deux femmes qui sont
sur
ce papier.
C'est bien, c'est la première fois qu'on joue avec quatre.
Oui, mais comme le texte était facile, finalement, et que c'est les 30 ans...
Soyons généreux.
Et que 30, c'est pas divisible par 3, donc j'en ai pris 4.
Ah bon ?
Donc, voici les noms par ordre alphabétique. Marcel Aimé.
Oui.
Agatha Christie.
Ah.
Scott Fitzgerald. Marguerite tchard. Yourcenar. J'ai dit Yourcenar, hein, pas Duras.
Alors, nous avons un Marcel Aimé, une Agatha Christie, un Scott Fitzgerald, une Marguerite Yourcenar. La salle a un peu vibré à l'énoncé de certains noms. Je ne sais plus très bien lesquels, mais... Marcel Aimé, vous pensez ? Fitzgerald. Bon, tout le monde n'est pas d'accord, hein. C'est un peu comme avec nous. Qu'est-ce que vous pensez, Dominique Müller ? Il y a de quoi réfléchir avec ces quatre noms.
J'en viens à Agatha Christie parce que ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure. Je vois bien Agatha Christie, chez elle, se creusant la tête en cherchant un autre roman policier. Oh la barbe, qu'est-ce que je vais en faire ? Ah bah tiens, celle-là, je vais l'envoyer à Java et celui-là, il a qu'à être ténor à Stockholm. En ayant marre, quoi, ne sachant plus où elle en est.
D'accord.
Et donc s'inventant cette espèce de parodie de son propre roman. Quoi.
Une Agatha Christie, une. Vous la suivez dans la salle ?
En tout cas, je suis ferme sur ma position.
Eva Almassi.
Non, mais je voilà, Miné, j'avais noté Agatha Christie, mais je ne l'ai pas citée.
Vous en avez écrit au moins 65.
Mais je ne la prends pas. Je ne la prends pas. Je l'ai écartée. Donc, tant pis pour moi. Je l'ai écartée.
Et alors, vous choisissez qui ?
Je vais prendre le plus invraisemblable. Parce que récemment, j'ai visité sa villa et j'ai envie de lui rendre hommage. Et je vais prendre Marguerite Yourcenar courageusement et en dépit de tout ce que j'avais dit auparavant et sur un seul argument, que si ça avait été traduit de Agatha Christie, par exemple, on aurait mis hot jazz, donc on aurait inversé ce jazz hot, fait un petit peu bizarre, recherché, et sur ce seul et extraordinairement fragile argument, je prends Marguerite Yourcenar.
Bon. Je constate que vous rejetiez tous l'hypothèse d'une écriture féminine et que vous avez choisi Agatha Christie et Marguerite Yourcenar. Pour le moment, Serge Joncourt.
Oui. Alors moi, si vous voulez, le point fort de ma démonstration jusqu'à là, c'était de considérer... Oui, il y en a un point fort. Oui, j'ai pas l'air comme ça, mais il y avait un point fort. C'est que c'était donc un texte, un auteur postérieur à 1907.
Oui.
Le problème, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, ils sont tous.
Oui.
Donc on évacue la datation au carbone 14. Et on essaye de faire sens. Alors, c'est vrai que Yourcenar, c'est tentant, parce que finalement, c'est une sorte d'ethnologue. Je disais Lévi-Strauss, Yourcenar, c'est un peu pas.
C'est pas loin.
Comment dire ? Oui, c'est assez proche. Hein. Oui, c'est une ethnologue un peu plus immobile. Mais quand on pense à Marcel Aimé, à sa loufoquerie, un homme qui est capable de faire passer un employé de bureau à travers les murs, si vous voulez, il est capable de produire ça. C'est-à-dire que effectivement, là, l'extrait est choisi de telle façon qu'on ne puisse rien y comprendre. Mais probablement, c'est un degré. Donc, alors, je parlais de format court. C'est une nouvelle, hein, dans le Passe-Muraille, peut-être même, dans un de ses recueils. Et un petit texte de Marcel Aimé, qui n'est probablement pas le meilleur. En tout cas, c'est pas... en raison de ce texte qu'on se souvient de Marcel Aimé. Mais en même temps, c'est un peu la force de Lucas Fournier d'avoir su trouver... enfin, j'aimerais bien qu'à la fin, quand même, il explique le 2,7. sinon, moi, je ne vais pas dormir avant une semaine.
Et qui ne s'est pas prononcé ? Patrice Minet. Pour le moment, 3 auteurs sur 4 ont été choisis. Vous restez Scott Fitzgerald, si vous voulez.
Alors, j'aurais envie de choisir Scott Fitzgerald.
Oui.
Mais je ne le ferai pas, parce que je ne vois pas où il aurait pu écrire ça. Moi, quand j'ai relisé ce texte, ça me faisait penser à Picasso. Ça avait un côté comme ça, fort et avec beaucoup de mouvements et tout ça. Et,
oui. Petit problème, il n'est pas dans la liste.
Et non.
Non.
Et je comprends, c'est peut-être une erreur, il y en avait peut-être 5. Marguerite Yourcenar, peut-être Agatha Christie. Moi, je vais prendre Marcel Aimé.
Nous avons donc deux Marcel Aimé pour Serge Joncourt, Patrice Minet, une Agatha Christie pour Dominique Muller, une Marguerite Yourcenar pour Eva Almassi. Il n'y a pas forcément un gagnant.
Pas forcément un gagnant.
La salle opte pour qui ? Agatha Christie, Marcel Aimé, Fitzgerald. Personne ne veut du Yourcenar ? Non.
Bon. Merci de soutien.
Vous êtes seule contre tous, Eva. Lucas Fournier, le verdict.
D'abord, le panache des experts, oui, et leur courage face à ce texte.
C'est vrai.
Quelqu'un avait dit que l'auteur ne méritait pas le prix Nobel, mais l'auteur a eu le prix Goncourt.
Aha.
Il s'agit donc de la deuxième nouvelle du recueil intitulé « Le passe-muraille » de Marcel Aimé. Voilà.
Il est assez fréquent de confondre Claude Lévi-Strauss et Marcel Aimé. Mais
le titre.
Donc il y a deux vainqueurs masculins aujourd'hui.
Oui.
Et donc le recueil s'appelle Les Sabines. Et comme vous l'avez compris, c'est une jeune femme qui s'appelle Sabine et qui a ce don d'ubiquité. Uh-huh. Donc à la fin, elle finit à 76 000 amants. Et puis après, elle revient plutôt à des proportions plus réduites,
plus
voire
facile
nulles
à gérer.
Voilà.
Bravo Serge Joncourt et Patrice Minet, et bravo dans la salle.
J'aurais quand même voulu savoir à quoi correspondait ce chiffre de 2,7.
Voilà. Le carré du nombre d'or.
Nous voilà bien avancé.
Voilà, super.
Oui.
Une progression exponentielle. C'est bien, on n'est pas très matheux, nous. Hein. Merci de nous expliquer, parce que...
C'est bac littéraire, ici, là.
On va faire le final. Alors, le final, est-ce que vous avez une partition à distribuer à tout le monde ? Qui a le texte ? Parce qu'on est censé reprendre tous en cœur. Donc, levez-vous, allez vers les micro-champs. Ce final, c'est un joli dimanche, parce que c'était vraiment... un joli dimanche avec vous pour les 30 ans des Papous. Et c'est un joli dimanche, piaf. Non, je ne regrette rien. Et c'est vrai qu'on ne regrette rien aujourd'hui.
Mon quotidien, non, il ne s'y passe rien. Mais le samedi, tout René et dimanche, ça devient idéal, on se sent bien, on ne se refuse rien, c'est ciné, roupiller, liberté, et le gigot flageolé. Avec mon petit jogging, je vais mettre le feu au yoga, mes copines me prendront pour un dieu. Écoutez les papous, relire tout Modiano, dans mon bain faire glou-glou, je reprends du gigot. On est tous bien, non, on ne s'inquiète de rien, tout est bien, ça nous plaît. Pas banal, on est phénoménal, on est dimanche, on se sent comme en vacances, c'est joli, il y a de la joie, aujourd'hui, c'était beau d'être là.
Les papous ont 30 ans. C'était la troisième partie de notre fête d'anniversaire, enregistrée le 30 novembre dernier au studio 104 de la Maison de la Radio. Une émission proposée par Françoise Tressart, avec équipe technique et de réalisation Anne de Pelchin, Pierre Mine, Patrice Klein, Benjamin Perru, chargé de production Roland Dandalex. Un numéro spécial des Papous dans la tête à podcaster sur franceculture.fr pendant un an pour nous emmener partout en balade avec vous, à réécouter pendant 1000 jours directement sur votre ordinateur et puis regarder les vidéos de cette journée anniversaire et les photos à la page des Papous du jour et sur Facebook où vous pouvez nous rejoindre entre amis. Merci à tous d'avoir été à notre rendez-vous. Vous étiez si nombreux, proches, affectueux, et vous avez joliment chanté pour nous. Nos cœurs battaient plus vite. Merci. On se retrouve dimanche prochain, même heure, pour notre dernière rediffusion de l'été. Papou d'un jour, papou toujours, ou on ne naît pas papou, on le devient. Et tout de suite, votre rendez-vous avec Catherine Libert, qui raconte France Culture Papier. Bel après-midi à l'écoute.